Il est 20h tout pile, nous sommes le 19 décembre 2019 et c'est le journal radiophonique amplifié numéro 58. Alors vous n'avez peut-être pas entendu le numéro 57 si vous n'étiez pas sur les ondes en direct il y a 15 jours, mais c'était dû à un petit problème technique, celui-là vous l'aurez bien en podcast sur le site de Transistor comme d'habitude. Le journal radiophonique amplifié ce soir, c'est des brèves, un petit tour vers l'Angleterre, un petit point sur les mobilisations actuelles contre la réforme des retraites, un grand retour sur toute l'actualité politique 2019 avec une édition spéciale de l'édito politique et un super quiz, des nouvelles de la musique, de la culture, un dernier sur le chemin de l'école, un peu de sport, un peu de science, et ce sera une belle soirée en compagnie de l'équipe du JR. Et on commence tout de suite avec le journal fait par Marie et moi. Alors, on commence par l'international ?
Allez, tant qu'on y est.
Et il y a un début de procédure d'impeachment ?
Oui, c'est ça. Alors, en fait, un petit peu plus qu'un début, puisque la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, s'est réunie hier soir pour voter les deux articles de mise en accusation, donc d'impeachment, visant Donald Trump, le troisième président de l'histoire du pays à être mis en accusation, ici pour abus de pouvoir et pour entrave à la bonne marche du Congrès. Après 6 heures d'un débat houleux, durant lesquels la parole a été équitablement répartie entre républicains et démocrates, la Chambre, menée par sa présidente démocrate Nancy Pelosi, a voté pour la tenue d'un procès du président au Sénat. Après la diffusion d'une conversation téléphonique entre Trump et le président ukrainien, les démocrates avaient reproché au président d'avoir fait pression sur son homologue afin d'obtenir l'ouverture d'une enquête sur le fils de son adversaire démocrate, Joe Biden. Ils avaient lancé une procédure de destitution dont la première étape avait été la tenue d'une enquête lors de laquelle Trump a refusé de coopérer, d'où la deuxième accusation, entrave à la bonne marche du Congrès. Dans une lettre à la speaker de la Chambre, Trump a dénoncé, je cite, « une croisade odieuse ainsi qu'une tentative de coup d'État illégale et partisane ». La prochaine étape, le Sénat devra décider s'il juge ou non le président coupable. Un vote dont l'issue semble déjà connue, puisque le Sénat républicain devrait se prononcer contre la destitution du président. Et le président du Sénat, Mitch McConnell, a d'ailleurs déjà annoncé son soutien au président, une affaire qui reste à suivre.
Et on part du côté de l'Inde.
Et oui, ils sont des milliers en Inde à contester la réforme des nationalités. Le Citizenship Amendment Bill sert un but très clair, accorder la nationalité sur des critères religieux afin de légaliser les hindous venus de l'extérieur et d'écarter les musulmans venus de l'extérieur. Le texte, en effet, qui amende une loi de 1955, régularise des réfugiés de 6 religions ayant fui pour des raisons religieuses 3 pays voisins, Afghanistan, Pakistan ou Bangladesh, mais refuse en revanche la nationalité aux réfugiés musulmans qui resteront, eux, des citoyens sans papier et donc sans aucun droit. Une réforme nationaliste et discriminante qui n'est qu'une étape supplémentaire dans la volonté du Premier ministre Narendra Modi d'imposer l'idéologie des Hindutva ou l'hindouité, une nation pour les hindous. Le Congrès, dirigé par le clan Gandhi, a dénoncé une loi allant à l'encontre de l'idée de l'Inde et de Bombay à Calcutta, les Indiens ont protesté contre, je cite, « une politique de ghettoisation qui s'oppose en tout point à l'esprit de la Constitution indienne ». Plusieurs protestations ont tourné à l'émeute, des étudiants ont été violemment pris à partie par la police, mais la population n'est pas prête à se résigner et refuse d'accepter une loi ouvertement raciste.
Un tout petit point sur le Brexit, puisqu'aujourd'hui, Elisabeth II a présenté le programme du gouvernement de Boris Johnson, dont l'axe central repose sur son slogan de campagne « Get Brexit Done ». Celui-ci a en effet vu son parti conservateur élu le 12 décembre dernier et il dispose désormais d'un mandat de 5 ans et d'une majorité affirmée pour réaliser sa politique. Le Brexit aura donc bien lieu le 31 janvier prochain, plus de 6 mois après que le Parlement britannique ait refusé de ratifier l'accord entre Theresa May et l'Union européenne. Mais Nicolas vous en parlera un peu plus précisément dans son billet d'ailleurs. Et enfin, Marie, une actualité de toute dernière minute pour finir.
Et oui, puisque fin octobre au Liban, un soulèvement populaire inédit avait conduit à la démission du Premier ministre Saad Hariri, accusé d'incompétence et de corruption. Eh bien, il y a quelques heures seulement, le pays s'est trouvé un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Hassan Diab, un universitaire et ancien ministre de l'Éducation, soutenu par le Hezbollah, ce groupe islamiste chiite, et il a été chargé par le président Michel Aoun de former un gouvernement. Hassan Diab avait qualifié le mouvement de contestation d'historique, mais sa nomination pourrait avoir des conséquences dommageables pour le pays. Pourquoi ? Eh bien, un gouvernement dominé par le Hezbollah, mouvement que les Américains considèrent comme terroriste et ont sévèrement sanctionné, pourrait rendre difficile l'accès au Liban à l'aide financière internationale. Plus encore, la situation réitérerait le conflit entre sunnites et chiites au Liban, une société confessionnelle dont le système politique est conçu pour garder un équilibre entre les différentes communautés religieuses, avec un premier ministre soutenu a priori par les figures de sa communauté, ce qui n'est pas le cas ici. Une situation compliquée donc, dans un pays au bord de l'effondrement économique, qui réclame le départ de sa classe dirigeante au pouvoir depuis la fin de la guerre civile en 90, la contestation devrait se poursuivre.
Et on retourne en France pour un point sur l'actualité qui est hyper riche également ici sur notre territoire avec toutes les mobilisations contre la réforme des retraites. Alors, on fait le point. D'abord, mardi dernier, 17 décembre, le ministère de l'Intérieur a annoncé 615 000 personnes présentes dans les manifestations. C'est un peu moins que pour le 5 décembre, mais à Paris, c'est la manifestation qui a connu sa plus forte affluence depuis le début du mouvement. De son côté, la CGT a dénombré environ 1,8 million de manifestants, avec l'écart habituel qu'on connaît entre les deux annonces. Les différents syndicats réclament toujours le retrait du projet, et le mouvement est loin de s'essouffler. Le trafic SNCF et RATP reste fortement perturbé, avec un TGV sur 4 et un Transilien sur 5 en moyenne. 8 lignes de métro sont toujours fermées à Paris, et selon le ministère de l'Éducation, c'est 24,16% du corps enseignant qui est en grève. La protestation reste donc vive dans tous les corps différents, que ce soit le corps hospitalier ou les agents EDF, et il y a des actions prévues tout au long du mois de décembre. Les rassemblements ce mardi ont réuni plusieurs milliers de personnes partout en France, plus nombreuses que le mardi 10 décembre. Il y avait environ 17 000 personnes à Toulouse, entre 14 000 et 30 000 à Nantes, et pour l'info toute locale, à Lyon, ils étaient 40 000. On compte des sites d'université et grandes écoles bloquées comme Sciences Po et notre école normale supérieure pour la deuxième fois. C'est assez historique. Il y a également des partiels qui ont été reportés à Lyon 2. À noter également, et on s'en souviendra bien puisque cela a été couvert par Le Monde, mais également parce qu'il y avait des étudiants et des enseignants de l'ENS de Lyon et d'autres écoles de Lyon. Le blocage du conseil d'administration de l'université devant le rectorat a été fortement réprimé par la police qui a gazé et matraqué sans sommation. Et pour revenir à ce point sur les mobilisations à une échelle un peu plus nationale, est-ce qu'on peut faire le point, Marie, sur un peu la position du gouvernement, des syndicats, qu'en est-il de la situation aujourd'hui ?
Oui, alors hier, mercredi, Édouard Philippe recevait les responsables des principales organisations patronales et syndicales pour la tenue de réunions bilatérales sur cette réforme des retraites. Tous ont réitéré leur profond désaccord avec le gouvernement sur cette réforme. Laurent Berger, à la tête de la CFDT, a souligné que l'âge d'équilibre n'était, je cite, « pas une option pour la CFDT » et a appelé à manifester mardi contre ce point de la réforme. Même s'il a reconnu avoir senti une volonté de discussion sur des thèmes tels que la pénibilité au travail ou le montant de la pension minimale de retraite, et même s'il est l'un des seuls à soutenir le système universel, Laurent Berger a martelé que la détermination de la CFDT était intacte. Le représentant de la CGT, Philippe Martinez, demande toujours, lui, le retrait pur et simple du projet de loi et a revendiqué plusieurs coupures d'électricité hier et aujourd'hui. La CFTCL a salué des ouvertures du gouvernement qui restent cependant à confirmer. La SNCF a quant à elle refusé la trêve de Noël réclamée par le gouvernement et par Laurent Berger. Et côté gouvernement, justement, si Édouard Philippe affiche sa détermination, je cite, « totale », l'Élysée a fait savoir que le président s'était fixé pour objectif d'obtenir une pause de la mobilisation pendant les fêtes et qu'il était donc prêt à envisager une amélioration de la réforme autour de l'âge pivot. Bref, si le gouvernement oscille entre conciliation et fermeté, l'opposition ne faiblit pas et l'affaire est à suivre.
Oui, une affaire à suivre puisque l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée d'action d'ailleurs le 9 janvier. Et puisqu'on parle retraite, on va parler de Jean-Paul Delevoye qui a démissionné en début de semaine de son poste de haut commissaire alors que l'opposition sociale à sa proposition de réforme battait son plein. Le parquet de Paris a annoncé aujourd'hui avoir ouvert une enquête préliminaire le visant. Et la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique avait d'ailleurs saisi la justice hier à la suite des révélations en rafale de la presse sur l'ensemble de ses activités parallèles que M. Delevoye n'avait pas mentionné dans sa déclaration d'intérêt. L'enquête porte donc à la fois sur cette déclaration incomplète ainsi que sur les conditions du cumul de rémunération d'un emploi public ou d'un membre du gouvernement et d'une rémunération privée. En attendant, c'est le député La République En Marche, Laurent Pietraszewski, qui le remplace, anciennement directeur des ressources humaines chez Auchan. Pour 2 mois de mission, il a reçu, à l'été 2017, plus de 71 000 euros de salaire et avait mis à pied une employée du rayon boulangerie pour une erreur sur une viennoiserie alors qu'il était DRH du magasin Auchan de Béthune. C'est donc un profil qui est loin de calmer et d'apaiser le dialogue social. C'est la grève toujours encore et c'est la grève aussi à Radio France. La grève se poursuit, c'est toujours de la musique sur les ondes et du silence dans le bureau de Sybille Veil. Hashtag Nous Radio France, lancé par celles et ceux qui luttent pour le service public qui est encore la radio et pour un service public de qualité et issu du collectif, comme ils le revendiquent sur leur compte Twitter. Ils ont également lancé un appel pour que tout le monde puisse publier les raisons pour lesquelles ils aiment la radio publique. Je vous en ai pris un que j'ai beaucoup aimé, celui d'Olivier Minot qui publie la dépêche sur Arte Radio et qui déclare « Le son du vent, les bruits du monde, la voix des gens, la radio c'est la vie, ma vie c'est la radio ». Donc si vous voulez vous aussi aller exprimer votre amour pour la radio publique et pour la radio en général, je suis sûre que vous avez des choses à dire sur Twitter. Aujourd'hui, d'après le CNJ Radio France, c'est 60% des journalistes de Radio France qui ont cessé le travail. Pour rappel, la grève a commencé le 25 novembre pour contester le plan de suppression de 299 emplois, remplacé par seulement 76 créations de postes. Un plan de réorganisation de la Maison Ronde, orchestré par Sybille Veil, qui génère l'incompréhension lorsqu'on sait que les antennes de Radio France sont écoutées chaque jour par 14,3 millions de personnes. Vous pouvez d'ailleurs toujours aller signer cette tribune parue dans Le Monde et transformée en pétition sur change.org, faire plus avec moins, ça ne marche jamais nulle part, qui est adressée au ministère de la Culture. Le journal, c'est tout pour aujourd'hui. On part directement en Angleterre avec toi, Nicolas.